Hervé Beuze, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes aujourd'hui à votre rencontre, à votre découverte, et nous avons choisi de le faire dans un lieu où vous enseignez l'art. Alors, je vous propose dans un premier temps que vous puissiez nous dire ce qu'est et qui est Hervé Beuze.
Alors, dans un premier temps, je suis de la Martinique, je m'appelle Hervé Beuze, j'ai près de 47 années d'existence et on va dire depuis 97, j'ai un diplôme national d'expression plastique et puis cela fait depuis 5 ans que je travaille à l'école d'art en tant qu'enseignant. Bon, bien avant j'ai une expérience très variée dans, on va dire, de l'art appliqué. Appliqué déjà là, j'ai fait des expositions retentissantes, notamment il y a un an j'ai fait une exposition à l'habitation Clément, une exposition personnelle de sculpture dans l'une des grandes salles. Ensuite j'ai eu aussi une expérience dans la confection, la réalisation de costumes, de chars, de vaval. En fait, tout ce qui tourne autour du carnaval. J'ai aussi travaillé pour le théâtre. Récemment, je viens de finaliser un décor pour une pièce de la troupe Puccipa Théâtre. J'ai aussi à mon actif un certain nombre d'œuvres placées dans le domaine public, à savoir dans les ronds-points de la Chérie, du Diamant, et également des sculptures dans le cadre de l'entrée du Grand Saint-Pierre, le projet à l'époque du Grand Saint-Pierre. Donc j'ai deux sculptures à ce niveau-là. Et puis également, j'étais intervenu dans une manifestation de l'ONF à la Forêt Mont-Travail, qui s'appelait Forest Art. Voilà. Donc, ce même projet, donc voilà le pourquoi on discute aujourd'hui, a généré un projet similaire en Guyane. Donc, également Forest Art Guyane, et je sors de Guyane.
Et voilà. C'est l'objet de notre rencontre, mais nous y reviendrons, si vous êtes d'accord, dans quelques minutes. Ce qui est aussi important, c'est, comme je disais, c'est que qu'on puisse vous découvrir. Vous êtes plasticien. Ça veut dire que vous utilisez plusieurs médiums pour vous exprimer, et c'est à la fois la sculpture, la peinture ou encore.
Oui, ça aussi, il y a le dessin, en fait, toutes sortes de médiums, ça peut être aussi la photo, la vidéo. Et bon, c'est-à-dire qu'à la base, j'ai une formation à l'école régionale d'art, qu'on disait à l'époque. Maintenant, ça s'appelle le campus caribéen des arts.
Et, donc, vous êtes de quelle promotion ?
Alors, je suis la promotion de 1997, on va dire. Et j'ai pu engranger un certain nombre de connaissances dans tous les médiums. D'ailleurs, c'est pour cela que le terme, la dénomination de l'artiste a changé. Auparavant, on disait, oui, un peintre, donc il était spécifié qu'il faisait que de la peinture, ou un sculpteur, que de la sculpture. Par la suite, on a utilisé le mot « art plastique ». L'art plastique, on voyait vraiment l'utilisation de matériaux. Maintenant, on va aborder la pratique artistique par un nouveau nom, l'artiste visuel, donc l'art visuel. L'art visuel, ça englobe maintenant en fait les nouveaux médiums que sont l'internet, la vidéo et tout cela.
Alors, il faut préciser que l'art est partout dans notre vie. C'est à la fois dans notre salon, sur le design de notre télévision, le design du fauteuil sur lequel nous sommes assis, sur le design des chaises. Mais est-ce que dans un pays qui est plus tourné, on va dire, vers la consommation, est-ce que aujourd'hui ces activités dont vous nous parlez, qui sont ces activités de création, est-ce qu'elles ont véritablement leur place à la Martinique?
Ah, plus que jamais, parce que dans une société de consommation, il s'avère que bon, tout ce qu'on reçoit vient d'un ailleurs, ou bien peut-être aussi localement, fait par des industriels, et la part créative est absente. Or, on sait que les Antilles, il y a une créativité qui est présente.
Presque exacerbée.
Exacerbée, on va dire que cette créativité peut-être est mal gérée, mal concentrée, mal, comment dirais-je, on va dire... mal organisée et exploitée. Il y a une créativité qui est née, si on veut, de l'historique, de l'histoire de la Martinique, quand on sait qu'il y a eu les périodes fameuses de l'amiral Robert, où les gens étaient amenés nécessairement à concevoir, à réaliser tout ce qu'ils avaient. Maintenant, il y a aussi la tradition qui fait que beaucoup de choses jusqu'au jour d'aujourd'hui, dans le milieu populaire, on a la capacité de les réaliser. C'est ce que l'exemple du petit banc ou de la ratière, ou en fait toutes ces choses-là, qui ont un sens, mais qui n'en sont pas, on va dire, c'est pas de l'art, c'est de l'art appliqué quelque part, mais de là, il y a une créativité qui naît. Donc, il y a beaucoup de pratiques dans le territoire qui nous intéressent en tant que plasticiens. Maintenant, pouvoir créer, c'est aussi la réponse qu'on peut donner justement à cette mondialisation des échanges, où justement l'humain ne fait que des choses standardisées ou va émettre des choses que des formes que standardisées. Donc c'est intéressant d'être capable de créer sa propre vision en termes de création. Voilà.
D'accord. Hervé Beuze, qu'est-ce qui vous a amené vers l'art?
Ben en fait c'est depuis tout petit, hein, depuis les écoles où je passais mon temps à dessiner tout le monde, et aussi mes capacités à utiliser les outils pour concevoir mes propres jouets à l'époque ou des cases ou des choses utiles. Donc j'ai toujours eu ce côté manuel et puis cette facilité de la main. Maintenant, il a fallu amener un plus, à savoir connaître déjà l'art du passé et puis connaître aussi ceux qui ont pensé l'art et également développer ma propre vision des choses.
Oui, et à partir des techniques qui vous ont été enseignées, bien entendu.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a les techniques, mais il y a aussi les techniques qu'on apprend soi-même, qu'on crée soi-même. Donc c'est un peu ça, l'école va être, si on veut, la première marche, mais ce n'est pas elle qui va tout donner. Maintenant, l'école aussi ne va pas donner aussi à l'étudiant ou à l'artiste qui en sort une vision qui lui est propre. On va lui donner peut-être les outils. L'école va être comme un escalier où l'étudiant pourra s'exprimer plus rapidement. Maintenant, ce qu'il est demandé, c'est que cet étudiant ou cet artiste ait quelque chose à dire vraiment à cette société ou pas. Mais l'idée d'avoir un propos original, c'est un peu ce qui est recherché et qui serait apprécié par la suite. Voilà.
Alors, comme tous les artistes, je suppose que votre art a une colonne vertébrale. Qu'il s'agisse de Laouché, qu'il s'agisse de Coco, René Corail et autres, on imagine. Vous, c'est quoi votre fondement?
Ben, mon fondement, c'est un peu la même problématique qu'ont eu les penseurs littéraires, c'est d'essayer de donner un sens à ce vécu particulier du côté du globe, quoi. C'est-à-dire on vit dans une île qui a une histoire forte, qui est confrontée à des échanges incessants et qui a du mal quelque part à se voir, à s'exprimer lui-même.
Mais vous êtes plus un interprète de quoi? De l'antillanité, de la négritude, de la martinicalité, de quoi exactement? Qu'est-ce qui...
En fait, je ne me situe pas dans ces courants et je ne cherche pas à... J'ai envie de dire que ce n'est pas le travail du plasticien, c'est peut-être le travail de tous les penseurs. Et même, il faut se dire qu'au jour d'aujourd'hui, est en train de se développer, c'est justement pléthore de textes, de penseurs, de scientifiques de l'art. Donc quelque part, l'artiste, son job à lui, c'est de créer les choses. Maintenant, une fois que c'est créé, une fois qu'on a dit ce qu'on a à dire, nécessairement, la société de la pensée va classifier l'artiste, classifier son travail. Donc au départ, je ne parle pas dans l'esprit de dire que bon, je pense nègre ou je pense glissantien ou fanonien et tout. Moi, je dis non, première des choses, c'est de penser ce qu'on est soi. Et nécessairement, il y aura peut-être un rattachement, pas forcément avec les penseurs d'ici, ça peut être aussi des penseurs d'ailleurs, des penseurs qui ont une réflexion sur le visuel.
Voilà. Quels sont ces penseurs qui vous inspirent? Ou du moins qui vous interpelle, même s'il ne vous inspire pas, mais qui vous interpelle?
Alors, il y a un penseur qui s'appelle Stuart Hall, qui a aussi développé toute une réflexion sur l'identité noire. Également, pratiquement tous les penseurs sont anti d'ici, donc de Fanon, Césaire, Glissant. Et donc voilà pour on va dire, les grandes pensées.
Vous n'avez jamais dit que vous ressemblez un peu à Glissant?
Oui, tout le temps. Tout le temps.
Et j'ai comme... l'impression de parler avec lui.
Oui, tout à fait, parce que c'est... Comme par hasard, là, j'ai un projet où on me demande de reproduire son visage. Donc, je suis un peu... Il y a une expo qui arrive et je dois revoir son image. Mais je sais qu'une fois, j'ai rencontré... Ben, justement, sa compagne m'a appelé une fois. Je crois que j'ai un frère aussi avec lequel je suis en lien. En fait, plein de gens font référence à son visage. Et souvent, ça m'arrive qu'on me demande, oui, quel lien que vous avez... Mais c'est quelqu'un que j'ai rencontré à l'époque parce qu'il faisait un projet bien intéressant pour les artistes. Et bon, il y a eu une sorte de modification de ce projet qui était de créer un musée, le M2A2 à l'époque. C'était en face de
l'aéroport. Oui, c'était le fameux projet qu'avait eu M. Samo avec l'ancienne usine du Larenti, c'est ça?
L'ancienne usine du Larenti. Et à l'époque, M. Glissant nous avait invité un certain nombre de plasticiens, puisqu'on était plus ou moins parrainés par les plus anciens plasticiens. Donc, je me rappelle à l'époque, Anissé m'avait invité, Ernest avait invité d'autres, Ernest Boller avait invité d'autres artistes, ainsi de suite. Et on avait pu discuter avec Glissant de ses propres collections, puisqu'il y a une collection magnifique, et puis des souhaits qu'il a pour la création. Maintenant, bon, le projet a été beaucoup plus, on va dire, en rapport avec l'automobile. Donc là,
c'est aussi une forme de design, on va dire.
Oui,
un design opérationnel, peut-être.
C'est-à-dire que c'est un design qui ne permet pas trop de penser la réalité. C'est un peu ça le souci. Donc ça aussi, c'est un gros problème que l'art a ici, puisqu'on se posait la question de savoir hors micro.
On en parlera tout à l'heure.
Voilà, de dire que l'art a besoin aussi d'espace pour se montrer. Parce que le problème qu'on a, c'est qu'une exposition est montée, mais elle reste le temps, une période très courte. Et la jeune génération, ou les visiteurs, ou même les gens d'ici n'ont pas le temps de connaître et d'identifier quel art qui se produit en Martinique. Donc les expositions sont très brèves, très rapides, et les lieux spécifiques ne sont pas non adéquats. Bon, peut-être il y a dans le privé des efforts certains. Maintenant, il manque dans le public peut-être des musées, on va dire, bien cadrés avec une collection précise. Et cette idée, c'est qu'il est nécessaire, même pour les étudiants qu'on forme, qu'ils aient vraiment des bases. Ne serait-ce que pour créer mieux ou peut-être pour casser ce qui a déjà été fait, mais il faut vraiment qu'il y ait ces espaces muséaux pour justement qu'on arrive à créer une sorte de continuité historique au niveau de l'art.
Oui, voilà. Une dynamique en même temps.
Une dynamique surtout parce qu'on se dit souvent qu'ici c'est un pays touristique et avoir des musées, c'est la première des choses que les touristes demandent. Quand on va à Paris, il y a tout plein de musées à voir. Donc ici, je pense que c'est un travail à faire. Maintenant, souvent on dit aux artistes, oui mais faites, parce que vous en avez besoin. Je me dis que non, qu'il y a d'abord les moyens, les institutions qui sont là pour ça. Donc les artistes aussi ont la possibilité de créer, mais bon, maintenant ça c'est un autre souci, puisque bon, le problème c'est que le type de création qu'on va faire, c'est plus des créations individuelles. Oui. Donc maintenant, associer plusieurs artistes dans un groupe, souvent ça tourne au vinaigre, ou ça tourne, chacun veut tirer le drap sur le soir. Donc il peut y avoir des groupes, mais il faudrait à la base qu'il y ait quelqu'un qui ne soit pas artiste, et puis qu'il y ait une sorte de vision non seulement locale, mais internationale. Donc ça, ce serait dans...
Qu'il y ait un leadership suffisamment développé pour entraîner peut-être. Mais enfin, disons que c'est vrai que on a un peu tendance à penser que les artistes ont chacun leur ego et qu'ils ont plutôt tendance à remplir l'espace qu'ils ont, quelle que soit la dimension de cet espace, n'est-ce pas?
Oui, en fait, parce que le pays est petit, il y a beaucoup d'artistes, et dès qu'on a un moment, en fait, chaque artiste souhaite vraiment ardemment que son art soit présenté. Et moi, je dis que s'il y a des espaces plus grands, beaucoup plus, il n'y aura pas cette concurrence et tout.
Il y a des espaces organisés, comme l'Habitation Clément, par exemple, qui régulièrement propose des choses intéressantes. Alors, Hervé Beuze, je vous propose, puisqu'on a déjà passé la moitié du temps, vous avez vu comment ça passe vite, je vous propose que nous revenions sur cette expérience que vous avez faite en Guyane, qui a été faite avec en continuation de ce qu'avait fait l'ONF à la Martinique, à la, comment ça
À la forêt
s'appelle? À la forêt
Montravail,
Montravail, à Sainte-Luce, où un certain nombre de sculptures avaient été réalisées. Et là, vous avez passé près d'une dizaine de jours en Guyane, où vous avez rencontré différentes personnes. Alors, parlez-nous de cette expérience.
Donc c'est déjà dire que la Guyane, c'est la première fois que j'y vais. Donc j'ai trouvé un pays qui a une richesse au niveau en termes de forêt, en termes d'espace, qui me parle énormément. Aussi la variété des bois. Cette expérience aussi m'a permis de rencontrer des artistes, puisqu'on était 10 artistes. Aussi bien des artistes, on va dire locaux, que des artistes internationaux et de la France métropolitaine. C'est aussi l'occasion, ça a été l'occasion aussi pour moi de découvrir d'autres techniques de réalisation, de
De la
création
sculpture.
de la sculpture, également des outils. Donc il y a aussi des échanges techniques, mais aussi des échanges en termes on va dire, de contacts ou de projets ou de donc chaque artiste on a échangé peut-être des projets futurs ou des espaces que certains artistes ont déjà expérimentés, d'autres festivals et tout.
D'accord. Alors,
Voilà.
la matière première, c'était quoi? C'était des arbres vivants, des arbres morts, des arbres verts, c'était quoi? Expliquez-nous. Et c'est l'ONF qui vous a mis à disposition les matériaux de base, je suppose.
Oui, l'ONF en fait au départ nous a fait avant même nous a demandé un avant-projet. Donc chacun est venu avec son projet, a présenté son truc. En fait, il y avait un dossier à présenter. Donc mon dossier a été retenu. Et l'idée au départ c'était de travailler sur ce qu'ils appellent des goûmes. Le goûme, bon, c'est un tronc d'arbre coupé. Et il y avait aussi des arbres sur pied. Donc moi j'ai eu un arbre sur pied qui a une partie vivante et une partie qui était vraiment très délabrée du fait qu'il y avait des mites. Donc j'ai dû enlever toute cette partie-là pour créer. Donc ce matériau au départ, c'est uniquement le bois. Donc des bois avec des qualités différentes. Donc il y avait notamment un bois qui s'appelle le wakapu, qui est un arbre qui a près de 80 cm de diamètre et qui est assez rigide. Mon bois, lui, c'était le Tarapu Tiki, donc c'est le nom marron que j'ai gardé. J'ai pas le nom scientifique. Et ça,
Oui, vous pouvez nous le redonner doucement.
donc c'est le Ta, donc c'est de A pour Tiki. Voilà.
T'as un poutiki.
Tarapu Tiki.
T'as un poutiki, quoi.
Voilà.
Comment créole? T'as c'est poutiki.
Oui, c'est boutique peut-être. Oui, c'est peut-être ça. Et puis, ben, le wakapu aussi, ça a un petit côté, une petite résonance. Mais c'est deux noms, on va dire, Saramaka. Ou Boni, plutôt. On va dire, j'ai oublié notre terme qui englobe en fait toutes ces sociétés marron.
Oui, c'est les marrons.
C'est les marrons.
En Guyane,
voilà. Le terme générique, c'est bouchilingué. Donc.
Sans compter aussi que vraiment, ils ont développé des choses extraordinaires en matière de peinture et puis en matière de sculpture aussi sur bois.
Alors justement, donc il y avait trois sculpteurs même qui accompagnaient un groupe de deux plasticiens venus de métropole. Ils ont réalisé une sculpture commune où ceux qui viennent de métropole ont apporté leur bois qu'ils ont adjoint Oh, à leur sculpture. Et ceux de les Bouchilingues qui étaient là ont rajouté des motifs amérindiens. Donc c'est vrai qu'ils ont une tradition du bois et également tout un ensemble de signes originaux qui ont été créés par ces populations. En gros, voilà, c'est un peu comme ça que je dirais
Avec
ça.
presque un ciselage scientifique, hein, c'est-à-dire qu'il y a une précision aussi qui est assez extraordinaire dans leur manière de tailler le bois, qui laisse très peu de place à une improvisation. C'est vraiment un canton précis d'une expérience définie.
Oui, c'est-à-dire que c'est un travail, on va dire, des motifs qu'on retrouve aussi sur des objets usuels, donc la pagaie notamment, les chaises, plus ou moins les trônes, également les devantures de cases. Donc il y a un certain nombre de scientifiques qui ont étudié justement
Mais la symbolique,
ce
c'est quoi?
travail-là.
Elle est quoi? Elle est quoi? C'est plus spirituel, c'est plus métaphysique, c'est quoi?
En fait, là, les Bouchilingues ont leur propre, comment dirais-je, représentation avec l'essence qui va avec. Mais pour l'occasion, dans ce projet Air Forest, le thème principal s'appelait Libi Makanda. Libi Makanda ou Libi Makandi, qui signifie « vivre ensemble en bouchilingué ». Donc le thème principal qui était imposé, à la différence du projet de Martinique, qui n'avait pas de projet imposé, chacun créait son idée. Là, il y avait l'idée de mettre en place ce projet-là. Bon, je suppose que ce terme « vivre ensemble », c'était vraiment en réponse au soubresaut, au soubresaut politique qu'il y a en ce moment en Guyane. Donc l'idée de comment donner sa voix à cette manifestation qu'on a eu aussi ici le 5 février. Donc ce questionnement sur la société guyanaise se retrouvait dans ce travail-là. Et dans cette idée-là, j'ai gardé un peu en tête cette approche, ce questionnement qu'il y a en ce moment, ce bouillonnement, on va dire, et le souhait de ma part de se dire, de prendre pratiquement toutes les nationalités vivant sur le sol et de prendre leur langue et d'écrire vivre ensemble avec cette langue. Ça a été pour moi quelque chose, une sorte de, j'ai envie de dire, c'est un peu la vision que j'ai de cette Guyane, c'est-à-dire c'est une Guyane qui est en phase, qui est en, on va dire, à un moment donné de son développement, où sont mis en place côte à côte un ensemble de sociétés, quitte à faire, en se disant que par la suite il y aura une société unie, multiculturelle, qui ira dans le même sens.
Mais est-ce que vous n'avez pas eu l'impression que justement la Guyane c'est beaucoup plus une superposition sans osmose?
C'est-à-dire que moi je pense que, bon, de manière, j'ai aussi une vision plutôt plus politique de la chose, en disant que je pense que la Guyane n'est pas développée et a des potentialités énormes, mais le développement est limité. Limité peut-être aux zones nécessaires à la stratégie nationale, parce que l'espace fusée est correct. Par contre, le petit exemple, pouvoir appeler dans la forêt ou aux abords, c'est vraiment compliqué. Donc,
dans le pays même, on lance des satellites qui le permettent, quoi.
Voilà, c'est un peu...
C'est le paradoxe.
C'est le paradoxe, c'est le non-sens. Mais ça se comprend dans l'idée qu'il y a un potentiel en Guadeloupe, en Guyane, qui n'est pas peut-être mis assez en évidence ou qui n'a pas les moyens. Les moyens ne sont pas encore à la taille du pays. C'est-à-dire que ce qui m'a frappé de voir que la route qui mène de Cayenne, parce que c'est que cette portion que j'ai vue, donc je n'ai pas vu tout Guyane, j'ai vu juste une portion, mais ça m'a vraiment interloqué, de voir qu'il y a simplement une petite route à deux voies, à droite et à gauche, pour relier Cayenne à l'autre bout du pays. Donc, je me dis que non, un pays de cette taille doit avoir des routes, peut-être 4 fois 3 voies, ou je ne sais pas, mais ou peut-être des trains ou des qui permettent d'aller plus vite. Donc c'est un pays qui vit au ralenti, mais que je pense qu'il est sur les chemins du développement. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai visité un peu la ville Saint-Laurent, qui est aux abords de la forêt, et Saint-Laurent fourmille de communautés vraiment, et ça m'a rappelé un peu le Canada, où justement il y a pléthore de communautés. Et à la différence qu'au Canada, ces sociétés sont intégrées, sont vraiment intégrées au tissu économique, quoi. Là, j'ai l'impression qu'il y a un parcage, c'est-à-dire qu'il y a le quartier chinois, le quartier surinamien, le quartier... En fait, chacun a son petit quartier, il n'y a pas une osmose, quoi. C'est un peu peut-être la vision que j'ai en surface. Bref, que je reste plus longtemps pour pouvoir apprécier au mieux ce pays-là, quoi.
D'accord. Je crois que vous avez été engourdi par la beauté de la Guyane, hein, parce que c'est quelque chose... Lorsque les Martiniquais arrivent là-bas, en tout cas, moi, j'ai ressenti ça moi-même la première fois que je suis arrivé en Guyane, on est pris d'un questionnement invraisemblable, quoi.
Oui, ça dit que la beauté vient, ça dit que j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas que... Parce que je posais des questions aux gens, ils disent « Oui, mais il n'y a pas de mer ». Or que non, c'est une autre beauté, c'est une beauté, on va dire, naturelle, c'est-à-dire qu'il y a des arbres partout. Ce qui m'a frappé, c'est par exemple, là, on dormait un peu à l'indienne, c'est-à-dire où il n'y a pas de porte, il n'y a que des fenêtres ouvertes, à la limite, on dort tous dehors, quoi. On est sous un toit de chaume,
de la pluie.
Qui protège uniquement de la pluie, et puis toute la maison est faite en bois. Et ça amène une senteur, un vécu particulier. Ce qu'il y a aussi, c'est la richesse de la faune et de la flore. Ça, c'est encore plus, c'est décuplé par rapport à chez nous. On a une grande variété, mais en Guyane, à la limite, j'ai l'impression, et même les responsables de l'ONF me disaient qu'ils découvraient des arbres. Jusqu'à maintenant, ils découvrent des arbres, ils n'ont jamais vu également des insectes.
Et puis, il y a encore une autre notion qui interpelle les Martiniquais, je crois que c'est la notion d'espace, quoi. C'est-à-dire ne pas être coincé, d'avoir des kilomètres.
Oui. C'est ça. Et puis ça fait, ce qui est intéressant, c'est leur coût, les coûts des terrains. Maintenant, le problème, c'est le désenclavement. Parce que les terrains sont certes grands et tout, mais pour y accéder, il faut vraiment un véhicule adéquat. Mais il y a aussi à dire, j'ai découvert aussi le système du bouillie, de la bâtie. Le fait qu'on va brûler une partie de la forêt, faire une culture dessus, le laisser après la culture en jachère et couper encore d'autres arbres, ainsi de suite. Donc il y a une technique qui ne peut être faite que dans des espaces aussi grands. Mais quand bien même la forêt est coupée, il y a encore une autre forêt secondaire qui arrive dessus. Et moi, je trouve que c'est vraiment un pays qui a d'énormes potentialités, des gigantesques potentialités.
Ça vous a plu, on
dirait. Ah oui, ça m'a plu. Et même, il y a un artiste qui souhaite, je ne sais pas ce qu'il a décidé, mais il souhaite, l'artiste Kanak, par exemple, il a décidé de rester sur place et d'essayer de créer sur place parce que c'est un pays qui lui parle.
Lui parle. Très bien. Alors, écoutez, Hervé Buzz, il ne nous reste plus que quelques minutes. On va, après cette expérience, après vous avoir connu, après avoir parlé de cette expérience de la Guyane, on va essayer d'avoir des éléments sur votre actualité, d'accord? Et puis, on va consacrer deux ou trois petites minutes à la question même du futur de l'art ici. Alors, votre actualité, c'est quoi au départ?
L'actualité, là, ça fourmille de projets. Donc, les projets les plus importants, c'est que j'ai une commande que je suis en train de finaliser pour l'habitation Clément, là où j'ai fait. Donc, ce sera pour la première fois, j'aurai une sculpture dans ce jardin.
Ah, très bien.
Donc, à la différence...
Comme on dit, vous aurez la vôtre.
Oui, j'aurai la mienne, mais toujours est-il que l'exposition que j'avais faite, c'était, on va dire, avec des techniques rapides.
Là, maintenant... Et là, vous allez utiliser quoi? Du bois, de la ferraille, du verre? Parce que je sais qu'il y a une diversification des modèles à l'habitation.
Alors, l'idée, c'est d'utiliser un métal, un acier très résistant à l'extérieur et travailler même avec une société pour tout ce qui est soudure, finition, pour avoir des garanties. Donc le projet est en cours et l'idée c'est vraiment d'avoir une pièce qui dure dans le temps, qui vient dure, je sais pas combien, mais ça va durer. Parce que c'est aussi ce souci-là qu'on a, c'est-à-dire qu'on peut créer ici, mais créer à l'extérieur nécessite d'avoir les matériaux nécessaires. Et le plus souvent, les matériaux ne sont pas pensés pour les tropiques.
Et vous avez quel espace cette fois-ci pour pouvoir faire ça? Vous êtes pas limité en dimension, vous avez quoi comme
Ah, j'ai mon atelier où je peux
réaliser. Je parle de cette œuvre. Je parle de cette œuvre que vous allez réaliser. Elle sera sur quelle surface à peu près?
En fait, elle va faire 4 mètres de haut. C'est un couple. Et puis, la circonférence, un peu comme les sculptures que j'avais présentées, on va dire 2 mètres carrés au sol, pratiquement.
D'accord. Donc ça, c'est, on va dire, une commande pour l'habitation Clément. Ensuite, vous avez quoi dans votre actualité?
En expo, là, il y a une œuvre que je suis en train de réaliser pour venir en soutenir la Dominique. Donc, c'est un plasticien ou un groupe de plasticiens, l'association O17, que tient Abdafay et Martin Becker, qui ont mis en place une sorte de d'exposition collective à la Villa Chanteclair.
Donc, qui aura lieu
cette semaine.
Oui, d'accord.
Et l'idée, c'est qu'un certain nombre de plasticiens vont présenter des œuvres à la vente et le bénéfice ira justement pour...
Vous allez en présenter quelques-unes?
Non, une pièce que je réalise spécialement pour ça. Voilà. D'accord. Parce que je trouve qu'il est plus intéressant de faire une pièce qui répond quelque part à cette problématique.
Hervé Buzz, vous avez un lieu d'exposition, on peut passer vous voir régulièrement ou pas?
Non, pour l'instant, je suis plutôt dans j'ai un espace de création, oui. Mais un espace showroom, non, je n'ai pas. L'espace showroom, c'est un espace virtuel que j'ai, donc j'ai des pages. Là, maintenant, je suis en train de concevoir justement une des nécessités, un blog spécifique pour pouvoir présenter mon travail. Puisque l'idée d'avoir un espace, ça nécessite aussi une infrastructure, des horaires et tout. Donc, je préfère dire que pour l'instant, c'est aussi, on va dire, c'est dans le virtuel qu'on peut voir mon travail. En gros, voilà.
Bon, on va terminer cet entretien. Merci en tout cas de nous avoir reçus à cette occasion, de nous avoir consacré tout ce temps. J'aimerais que vous arriviez donc à terminer pour nous dire aux jeunes, à ceux qui nous écoutent, à ceux qui sont en train de vous écouter avec attention, si l'art peut nourrir son homme à la Martinique et est-ce que ça peut être un métier.
Oui, c'est l'art peut nourrir fortement. L'art déjà nourrit plein de gens. Parce que là, en fait, il faut le prendre sous différentes. Se dire qu'il y a différents métiers qui se rattachent à l'art. Soit si l'art est pensée, si l'art est réflexion, ça donne des docteurs, ça donne des enseignants, ça donne des critiques d'art. Donc il y a tout un ensemble de métiers. Un métier aussi qui n'est pas très présent, c'est l'agent artistique. C'est quelqu'un qui est là pour faire le lien entre le client et le créateur. Il y a aussi les métiers de promotion de l'art, au même titre qu'on va promotionner toutes sortes de cultures, on va dire, de choses agricoles, de réalisations, on va dire, plus industrielles.
De la musique, par exemple.
De la musique, là aussi, il nécessite ce travail-là. Maintenant, il y a un travail à faire à ce niveau-là, et puis avoir les compétences et aussi le carnet d'adresses. Donc, il y a déjà eu des expériences par le passé, mais bon, je pense qu'il y a un espace là à prendre, un métier très, très fortement nécessaire pour les artistes. Il y a aussi donc tout l'aspect où l'artiste sera celui qui va créer un art dit utile, c'est ce qu'on va appeler de l'art appliqué pour la société. Et ça, bon, les métiers sont
sous forme de prototype.
C'est-à-dire que là, l'artiste va être confronté à des normes précises, des contraintes, on va dire. Réaliser une chaise, réaliser même un vêtement, tout ça, c'est de l'art. Et à chacun de ces métiers appliqués, sera le nom de styliste, sera le nom de graphiste, sera le nom de designer. Mais à la base, ce sont des gens qui dessinent et qui créent ou qui font du volume pour justement réaliser. Donc moi, je considère que c'est aussi de l'art. Mais tiens, aussi l'art de l'art qui va être un peu plus élevé, qui va être non pas appliqué, non pas entre guillemets nécessaire. En fait, sa nécessité sera autre, sera celle de penser, de réfléchir à quelque chose qui nous... Pas seulement du beau, mais aussi essayer d'atteindre une autre dimension. À mon niveau, c'est l'idée aussi de penser, comme on parlait de penseur justement, c'est penser aussi par le visuel. Aussi définir, peut-être pas définir, mais essayer de comprendre ou mettre à vue, à jour, ce qu'on est, ou ce qu'on devient, ou ce qu'on est avec justement cette rencontre mondiale. Tu vois, c'est un peu ce que je pense que l'artiste aussi a cette capacité-là de transcender l'être entier, ou l'être de manière générale. Voilà. La capacité de par son art, d'exprimer cela. Et ça, c'est aussi, j'ai envie de dire qu'en termes de monétaire, c'est du simple au milliard. En ce moment, il y a une œuvre de Vinci, par exemple, qui va être vendue à plus de 10 millions ou 10 milliards, je ne sais plus. Mais il y a dans l'art ce rapport à l'argent, c'est-à-dire moi je distingue les deux, c'est-à-dire qu'il y a l'art qui va être là où on va penser une œuvre en rapport avec un questionnement précis, et puis l'art qui sera lié à, on va dire, l'activité marchande économique, c'est-à-dire l'art deviendra à ce moment-là un objet très recherché. Donc on sait que le principe, la loi veuille en économie, que tout ce qui est rare est cher. Donc pour peu que l'artiste développe son image, son originalité,
son univers
et qu'il soit soutenu et qu'il ait, une image à l'extérieur de justement cette préciosité, fait que bon, il y aura ce qu'on va appeler une cote, il y aura un nom, les coûts de ses œuvres vont augmenter. Donc il y a aussi cet aspect-là qu'on quelquefois il y a des artistes qui sont un peu réticents, se disant non, je préfère créer librement et puis ne pas être à la solde des marchés. Maintenant, bon, je pense qu'il faut tenir compte de ce marché, mais ne pas être assujetti à ce marché. Parce que qui dit être assujetti au marché, au client, fait que l'art qu'on va créer va être un art pour, on va dire, plaire à ce public. Qui fait que quand on est dans cette posture, on va faire des choses, un peu comme tu dis, peut-être belles, parce qu'on veut qu'on achète, on va y mettre une belle femme, on va y mettre des choses qui, on est sûr, vont être achetées, de belles taches ou de belles couleurs. Voilà, et des fois une œuvre qui est peut-être pas aussi chatoyante, aussi intéressante, pose un questionnement essentiel. Voilà, c'est un peu comme ça que je peux t'expliquer un peu le propos de l'art. Voilà.
Ok, très bien. Ben, Hervé Buzz, merci. On se donne rendez-vous très prochainement. Je suppose qu'il y aura des expositions, qu'il y aura des choses nouvelles. En tout cas, pour ici, Martinique, il n'y a pas de problème. Nous diffuserons bientôt cette rencontre. Et des images nous seront données de telle sorte qu'on puisse illustrer tous ces propos. Merci Hervé Buzz.
Merci ici Martinique et puis merci à toi, monsieur Monlui.
Oui.
Voilà.
À bientôt.
À bientôt. Oui. OK.